Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Comment allez-vous en ce magnifique mois de juillet? Moi, je vais vous dire, je suis emballée parce que depuis un mois, j'occupe un petit bout de vos oreilles, semaine après semaine, dans cette nouvelle émission-là qui veut tisser des liens entre les générations et nous apprendre à vieillir encore plus sereinement. Et c'est un peu ce qu'on a au programme aujourd'hui, vraiment le combo idéal entre la santé physique et mentale. Mes invités sont Éric Simard, qui est docteur en biologie et un expert sur le vieillissement. Il vient nous parler de son tout nouveau dernier livre qui est « Vivre jeune 4, ne soyez pas esclave de votre génétique ». C'est un livre qu'il a écrit aussi en collaboration avec d'autres experts sur le vieillissement. Pour parler de la santé mentale, c'est la magnifique Renée Ouimet du mouvement Santé mentale qui va être avec nous. Et je suis à peu près convaincue que ces deux-là, ils vont nous donner des bons trucs là, pour renverser la vapeur les jours où notre énergie est peut-être un peu moins forte ou bien le moral est un petit peu dans les talons. Moi, personnellement, je me suis inventé un petit combo, là, vitamines, santé physique et mentale, puis j'ai envie de vous en parler un petit peu. D'abord, je fais de la course à pied et je m'y suis mise assez tardivement dans ma vie. Je pense que je n'avais pas encore intégré le fameux « un esprit sain dans un corps sain ». Mais quand je me suis mis à courir, j'ai vu à quel point c'est un antidote extraordinaire les jours là, de petites pensées noires. Alors vraiment, l'exercice, c'est merveilleux pour la santé physique et mentale. Je fais également de la méditation, un beau petit 10 minutes pour partir le matin. Il y a un paquet de plateformes extraordinaires là, qu'on peut utiliser pour méditer. Également, je m'assure de faire des marches. J'habite dans un quartier extraordinaire où il y a une belle fontaine, un saule pleureur où je vais m'installer pour faire ma méditation et ma marche. Et vraiment, c'est un moment là, qui m'aide à avoir de l'énergie. Et la raison pour laquelle on a besoin de cette énergie-là pour être en santé physique et mentale, c'est parce qu'on a envie de créer des projets stimulants, puis on a envie d'être bien avec les gens qu'on aime. Et on a surtout envie de ne pas avoir de regrets dans notre vie. C'est un des thèmes dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission, les regrets, d'après le livre « The Top 5 Regrets of the Dying ». Et puis c'est un petit peu le but hein, de cette émission-là au fil du temps, nous amener à minimiser le plus possible les regrets et maximiser le bout qui nous reste. Alors, inspiré par nos sujets d'aujourd'hui, je vous présente notre chanson qui ouvre « Au fil du temps » d'Alain Souchon. Et c'est un exemple parfait de ces déclics-là qui nous amènent des fois à partir d'une situation un peu négative et à la tourner vers le positif. Donc, « La vie ne vaut rien » devient « Rien ne vaut la vie » Alain Souchon.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens. L'existence. Il a demandé leur avis à un tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs. Joli petit sein de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit, ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie.
Ma prochaine invitée est Renée Ouimet, directrice du mouvement Santé mentale Québec, mais j'aurais envie de dire qu'elle est plus l'âme de ce mouvement-là. J'ai rencontré Renée dans le cadre d'un mandat pour la fête des voisins au travail et c'est une initiative dont je vais vous reparler cet automne. Et depuis, je suis sous le charme de cette femme à la fois spirituelle et rigoureuse. J'ai invité Renée pour qu'elle puisse nous donner des conseils pour nous protéger des pensées négatives qui, des fois, nous contaminent encore plus vite que n'importe quel virus, puis des trucs pour vitaminer notre santé mentale. Et je pense qu'en temps de pandémie, on en a bien besoin. Bonjour, Renée.
Bonjour, Chantal. Et merci pour cette présentation. Et nous, on fait la promotion de 7 astuces qui nous aide à protéger notre santé mentale. Et là, tu viens de mettre de l'avant l'astuce s'accepter, c'est-à-dire, je te dirais, renforcer mon estime de moi.
Je viens de te donner un petit boost.
Un petit boost dans la journée. Merci beaucoup.
Avant qu'on parle des autres astuces, Renée, j'aimerais qu'on fasse une distinction qui est très importante, je sais, pour toi. C'est entre la prévention de la maladie mentale et la promotion de la santé mentale. Peux-tu nous faire la différence?
La majorité des gens, ou en tout cas peut-être pas la majorité, quand ils entendent santé mentale, dans leur tête, ce qui résonne, c'est pas santé, c'est maladie mentale. C'est trouble, c'est souffrance, c'est dépression. Mais pour nous, c'est important que les gens saisissent que quand on parle de santé mentale, on parle de quelque chose de bon, de quelque chose à maintenir. Et puis l'Organisation mondiale de la santé dit quelque chose qui est très important, c'est sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Donc, on sait que des fois, des personnes vont avoir des problèmes physiques, mais qui ont une excellente santé mentale, puis ça leur permet d'être résilients, puis de passer à travers des moments difficiles. Donc, cultiver, je dirais, renforcer, muscler notre bonne santé mentale, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et s'il y a une seule chose à retenir de l'entrevue, c'est que santé mentale, c'est positif. On en a toute une. Et que c'est avoir un certain équilibre dans sa vie qui nous permet d'atteindre, d'aller vers des objectifs, de collaborer à la société dans laquelle on vit, de tendre vers quelque chose qui a du sens pour nous.
Tu parlais justement des 7 astuces pour se recharger. Je pense que c'est un grand, grand thème transversal à travers les prochaines années. On va parler dans quelques minutes de la campagne de cette année, mais quelles sont-elles ces astuces-là?
Bien, écoutez, on les a pas inventés de toutes pièces, là. Ça vient de, c'est ce qu'on appelle les facteurs de protection en santé mentale. C'est vraiment des éléments qui solidifient notre santé mentale. Alors, on parle de agir, ce qui veut dire donner du sens dans sa vie, prendre le temps de voir ce qu'il y a de bon et de toujours se dire qu'on a toujours un pouvoir d'agir, si petit soit-il. Ressentir, dont on va parler un petit peu plus tard, fait que je passe vite dessus. S'accepter, c'est être capable de reconnaître nos forces, nos difficultés, nos capacités et d'être capable de se voir avec un regard bienveillant, je dirais. Mais on aborde toujours les astuces avec nous, comment c'est des bonnes astuces pour nous, mais bonnes pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'on peut contribuer au bien-être des autres, comme tu as fait tantôt, ou tu as contribué à mon bien-être. se ressourcer, une astuce à jamais oublier, de se garder du temps à chaque jour pour faire quelque chose qu'on aime et qui recharge notre batterie. Prendre le temps de découvrir. Dans le découvrir, on parle beaucoup d'être curieux et de s'appuyer sur nos forces pour faire face à toutes les adaptations qu'on a à vivre dans nos vies. Puis on sait qu'actuellement, on est dans un contexte exigeant. Donc, découvrir, c'est développer des stratégies d'adaptation, c'est regarder toutes les possibles dans une situation avant de choisir le chemin où on veut aller. Il y a choisir, qui est notre autonomie, mais notre autonomie qui ne veut pas dire tout faire tout seul. C'est aller chercher de l'aide quand on a besoin. Puis choisir, c'est être capable de fonctionner en lien avec nos valeurs profondes aussi. Et créer des liens qui n'est pas le moindre, parce qu'on sait que le fait d'avoir un réseau social, un réseau d'amis, c'est extrêmement bon, tant pour la santé physique que pour la santé mentale.
Bien, ça, c'est un de mes favoris, cette astuce-là, comme tu sais, puis c'est particulièrement important. Et le but de cette émission-là, c'est d'aider aussi pour les personnes âgées à créer des liens avec leur entourage pour briser l'isolement. Et j'ai envie de t'entendre sur le thème de la campagne cette année. Ressentir, c'est recevoir un message. Et surtout, le fait que parfois, il y a des personnes qui sont plus aptes à recevoir, à entendre leurs émotions, mais on dirait que pour certains, on dirait que le facteur, il passe en retard, que l'émotion, elle arrive un peu plus tard. Donc, comment on fait pour se mettre en état d'esprit pour la ressentir, nos émotions plus rapidement?
Bien, ce que j'ai dit beaucoup dernièrement, c'est que apprendre à ressentir nos émotions, puis à les nommer, à les accepter, puis à vivre avec, c'est apprendre parfois une nouvelle langue. Et ça n'a pas toujours été notre langue maternelle. On vient quand même d'une société qui nous disait d'être fort, puis pleure pas pour rien, puis tiens-toi debout, puis fonce, mais... C'est pas parce qu'on a des émotions qu'on est faible, c'est pas parce qu'on a des émotions qu'on est plus fragile que quelqu'un d'autre. Nos émotions sont des messages dans la vie. Ils sont vraiment là pour nous dire, oups, écoute, prends le temps d'observer ce qui se passe, puis d'accueillir ce qui est là, parce qu'il y a un message qui est en train de te dire, ou bien on a des papillons dans le ventre parce qu'on est interpellé par une personne, ou bien on a mal au ventre parce qu'on vient de sentir une injustice profonde, ou bien on a un poids terrible sur nos épaules parce qu'on sent que on sent une lourdeur et on se sent responsable de tout. Fait que quand on prend le temps d'observer ce qui est là dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, de l'accueillir au lieu de faire non, il y a notre porte-parole qui disait une émotion, si on l'accueille pas, c'est comme entendre notre système d'alarme de fumée, puis de le débrancher sans aller voir s'il y a du feu quelque part. Fait que notre émotion nous dit, se passe quelque chose, t'as un besoin, et comment tu peux répondre à ce besoin-là. Alors, ça nous permet de voir que les émotions, c'est un peu le GPS dans notre vie qui nous informe sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où, tu sais, notre enfant tombe, se fait mal à une jambe, bien, ça se peut qu'on soit dans un moment de tristesse puis qu'on le mette de côté pour quelques instants pour s'occuper de notre enfant. On n'est pas obligé de baigner dans nos émotions tout le temps, mais après ça, on peut revenir à notre tristesse, voir pourquoi elle est là, puis qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Des fois, la tristesse, parce qu'on vit un deuil, puis la tristesse nous met aussi en lien avec les autres, permet de créer de l'empathie, nous envoie un message. Des fois, c'est la colère qu'on a voulu réprimer comme si c'était une émotion négative, mais la colère est souvent un moteur d'action pour changer des choses. On parle de colère, pas de violence. Là, pour vraiment
oui, c'est important de faire la distinction.
Alors, si on va sur notre site, êtebiendansatête.ca, il y a une petite fiche qui est vraiment toute simple, qui parle des quatre étapes pour ressentir, qui est d'abord, j'observe qu'est-ce qui est là. Ensuite, j'accueille mon émotion. Ça, c'est un exercice quand même à faire parce qu'on a été souvent habitué à tasser ça, à mettre un chapeau dessus. Mais quand on fait ça, l'émotion continue à nous envoyer des messages dans notre corps. Tu sais, elle continue à être là tant qu'on s'en est pas occupé. Elle sonne une petite cloche là pour nous dire « Écoute, je suis là. Écoute-moi, s'il te plaît. » Après ça, identifier c'est quoi le besoin lié à l'émotion qui est là ou aux émotions qui sont là. Et puis choisir qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins qui émergent.
Tu disais, René, que les émotions, des fois, portent un chapeau. Là, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs émotions qu'on vit et ces temps-ci, là, elles portent des masques. Tu parlais aussi de recevoir un message et je sais que votre porte-parole a rédigé une phrase, un message tout spécial là, pour des couvre-visages qui sont offerts à la population, dont une partie des profits va à des mouvements en santé mentale. Quelle est cette phrase-là, René?
Et là, tu viens de me piéger parce que j'ai pas la phrase exacte, mais c'est derrière ce message, derrière ce masque, je te souris, ça ressemble à ça.
Oui, je te souris en cachette.
Je te souris en cachette, c'est ça, il me manquait le mot cachette. Et c'est tellement charmant à porter. Alors, c'est une entreprise, une jeune entreprise québécoise qui s'appelle Cool Apparel. Et puis, c'est une entreprise qui s'investit pour passer des messages en lien avec la santé mentale, comment la favoriser, et tout en faisant des casquettes, des chandails, des couvre-visages. Alors, écoutez, n'hésitez pas à l'acheter.
C'est cool, hein? K-O-O-L.
Oui.
Et tu parlais de cachette, mais il y a quelque chose que j'ai appris de votre porte-parole, David Goudreau. On le connaît là, comme poète, slammer, écrivain, mais travailleur social.
Oui, c'est pour ça qu'il est un si... Ben pour ça, sûrement pas juste pour ça, pour son histoire de vie aussi, qu'il est un si bon porte-parole. Parce qu'il il a été imprégné, il a fait de l'intervention, il a travaillé dans des groupes en prévention du suicide. Il va beaucoup dans les écoles, dans les centres de détention. Fait qu'il y a un lien avec les humains qui est particulièrement fort et sans trop de préjugés, pour pas dire sans, parce que je pense qu'on en a toujours un petit peu, mais qui est vraiment... capable de parler avec connaissance, avec cœur, avec amour
oui.
de santé mentale. Il est assez génial.
Oui, absolument. Un très bon choix. Et parlant de très bon choix, je sais que tu nous as réservé une chanson qui te tient à cœur. En terminant, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on va écouter dans quelques instants?
Oui, c'est « Le temps de vivre » de Georges Moustaki. Et c'est une chanson qui date de mon adolescence. où Georges Moustaki chante, puis je vais dire salut à mon amie Suzanne Robert, qui m'a fait, mon amie d'adolescence, qui m'a fait connaître cette chanson-là. Alors, ça parle de liberté, d'être libre en amour, sans projet, sans habitude, et bref, c'est une très jolie chanson, mais parfois des habitudes quand même, comme tu sais très bien, Chantal, il y a des fois des rituels et certaines habitudes qui nous apaisent. Fait qu'en vieillissant, je vous dirais, gardez-en quelques-unes, mais pas trop s'ancrer quand même dans des habitudes qui nous enlèvent la joie de vivre.
Bien, c'est ça la différence entre les habitudes et les rituels. Les rituels, c'est quelque chose qu'on choisit, qui nous réconforte, qui donne du sens. Et pour moi, te parler est toujours une rencontre pleine de sens. Alors, merci beaucoup. On recevait Renée Ouimette, la directrice ou l'âme plutôt du Mouvement Santé Mentale Québec. Et si vous vous intéressez aussi à tout ce qui touche autour de la santé mentale, vous connaissez notre émission du mercredi soir, Folie douce. Alors, merci beaucoup, René, et on se laisse avec le temps de vivre.
Merci, ça me touche vraiment de partager des moments avec toi. Belle journée.
Au revoir.
Nous prendrons le temps de vivre.
d'être libre, mon amour sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vivent les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour vient. Toi, tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. Et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie.
C'était Le temps de vivre de Georges Moustaki. En cette ère de distanciation sociale, j'ai plutôt envie de vous raconter une expérience de rapprochement social qui m'est arrivée il y a quelques années. Je vous avertis, c'est une sorte d'improvisation que je vous raconte. Ça s'est passé dans un bar il y a quelques années. Le lendemain, j'allais donner une conférence et je n'avais pas envie là, de manger toute seule dans ma chambre d'hôtel. Alors, je me suis installée au bar avec mon repas, mon téléphone, un bon livre et un petit verre de chardonnay. Puis là, je pitonnais et je voyais tout le monde autour du bar qui était comme un bar en U qui faisait la même chose. Chacun dans ses bébelles, chacun tout seul sur son sel, comme la chanson de Serge Fiori qui parle de cette solitude numérique-là. Et là, il m'est pris une espèce de bulle au cerveau et je me suis dit, tiens, j'essaye quelque chose. Je ne sais pas si c'est la faute au chardonnay, mais voici ce que j'ai fait. J'ai dit à voix haute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de jaser? Et là, ça a d'abord été une espèce de silence. Je me disais, au pire, c'est pas grave, j'ai un excellent livre, je vais m'y replonger. Et il y a un monsieur âgé, je dirais de 75-80, de l'autre bord du bar, qui m'a dit, moi, je suis tannée d'être dans mon téléphone. Alors, j'ai traversé le repas, le livre, le petit verre de chardonnay et on s'est mis à discuter, moi et lui. Et ce qui a été fantastique, c'est que les autres personnes qui étaient autour du bar se sont mis à discuter aussi avec nous. Et comme très rapidement, on a recommandé un verre de vin puis on a jasé là, comme ça un bon 2 heures. La raison pour laquelle je vous raconte cette expérience-là, c'est que je me suis lancé un défi. C'est sûr que vous allez me dire, là, excusez-moi l'expression, là, mais du guts pour faire un truc comme ça. Mais je me dis, au pire, j'aurais l'air fou. Et moi, je vais vous faire une confidence, là. Je suis une ancienne timide, une très, très, très grande timide qui a fini par se corriger. Et cette expérience-là, elle a été tellement profitable que j'ai décidé de la répéter. Je l'ai fait dans d'autres endroits, dans des restaurants. Je l'ai fait aussi avec mes voisins. Quand je suis arrivée dans mon nouveau quartier, c'était dans le temps de Noël, je suis allée porter une carte pour leur souhaiter joyeux Noël, bonne année, en leur souhaitant le plaisir là, de se rencontrer prochainement. Et tous m'ont redonné une carte à leur tour. Et ça a amené à créer d'excellents liens de voisinage, de sorte que mes voisins autour, il y a des gens vraiment de toute génération. Il y a Philippe et Suzanne qui sont dans les 70. Ils ont même ma clé de maison. On s'entraide. Donc, des fois, il s'agit d'un petit déclic, un tout petit défi pour faire changer les choses. Si ça vous dit de lire cet article-là, ça s'appelle « Y a-t-il quelqu'un pour me parler? » C'est disponible sur mon blog à chantaldoré.com, DAURAY.com, et vous allez avoir mon adresse courriel. J'ai envie de vous entendre. Si vous avez eu ce genre de petit rapprochement spontané-là, racontez-moi ça. Racontez-moi des histoires de vie. Partagez-moi votre vie. Je veux vous entendre au fil du temps. Je me sens un petit peu tout seul. J'ai besoin de vous pour faire cette émission-là. Saviez-vous qu'au fil du temps et toutes les émissions de Canal M sont disponibles en format balado-diffusion? Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Balado ainsi que Google Play Music ou encore les écouter sur canalm.vuesetvoix.com. Restez avec nous pour la deuxième demi-heure d'Au fil du temps. Je reçois Éric Simard, docteur en biologie et expert en vieillissement. Ici Chantal Doré, vous êtes toujours à l'écoute d'Au fil du temps. Dans cette deuxième demi-heure, je reçois Éric Simard, docteur en biologie, expert en vieillissement, qui a des conseils pour peut-être même nous faire devenir un centenaire. Bon, je ne sais pas si on va devenir centenaire, mais au moins vieillir encore de belles années en forme et en santé. Par contre, il y a une chanson que j'ai envie de vous écouter qui parle d'avoir 100 ans. Oui, « J'aurai 100 ans » de Berries, qu'elle chante avec Louis-Jean Cormier. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette chanson-là, c'est un hommage à un couple. Elle a été écrite par Maxime Leflaguet, le fils des comédiens Véronique Leflaguet et Michel Côté, qui sont ensemble depuis 48 ans. Et incidemment, Michel Côté, il est sur la couverture du magazine Virage du Fadoc en ce moment, comme quoi hein, tout est relié. Alors, je vous laisse écouter « J'aurai 100 ans » de Berries et plus particulièrement cette belle phrase « Je relirai tes rides, autant de souvenirs qui ne sont qu'à nous. »
J'aurai 100 ans Toi, moi Je m'allongerai au chaud Dans le creux Comme un retour au verso Comme pour mon dernier repos Je colmaterai l'hiver Je relirai tes rides, autant de souvenirs.
Mais j'ai 30 ans. Toi un peu moins. Je comprends mal les mots que tu veux que je serve comme un cowboy son troupeau, comme un homme son ego. J'ai honte, c'est la guerre. Le cachemire entre nous. Au comble, c'est horrible. Mais les blessures meurtrières. Oh, arrosons cet arrière.
Malgré qu'il soit dans la fleur de l'âge, Éric Simard est considéré comme un vieux de la vieille en matière de prévention du vieillissement. Chercheur et docteur en biologie, Éric Simard est actif sur plusieurs tribunes scientifiques, président d'Idon Technologies, l'entreprise derrière la gamme de produits Vitoli, et auteur de livres, dont son quatrième, dont il vient nous parler aujourd'hui. Bonjour Éric.
Oui, bonjour.
J'ai eu le grand plaisir de collaborer avec vous pour rédiger l'agenda santé de Sélection Retraite. Alors, j'étais très curieuse d'entendre votre nouveau-né sur les personnes âgées. J'avais beaucoup apprécié « Vivre jeune plus longtemps », votre premier livre, qui a été suivi de « Vivre jeune deux fois plus longtemps ». Et là, le quatrième s'appelle « Vivre jeune 4. Ne soyez pas esclave de votre génétique ». Alors, va-t-on pouvoir être jeune quatre fois plus longtemps?
En fait, le titre du deuxième, qui était deux fois plus longtemps, était c'est un clin d'œil qui venait du médecin qui a écrit le deuxième livre et le troisième avec moi. Et pour continuer, en fait, dans la lancée, dans l'esprit de vivre jeune, on va continuer à utiliser, en fait, le titre et continuer à couvrir des sujets plus variés. Et approfondir certaines facettes qu'on n'a pas approfondies encore à l'heure actuelle. C'est que dans le quatrième, une chose fort intéressante, on aborde certaines problématiques de santé, en particulier comme le cas de la prévention de la démence et de l'Alzheimer, le cas des problèmes de sommeil aussi qui touchent énormément de gens. J'explique aussi le fonctionnement du système immunitaire. Je donne aussi des conseils sur comment faire pour garder un système immunitaire le plus performant possible, ce qui est extrêmement important actuellement.
Oui, tout à fait. Puis je crois que vous avez aussi décidé de l'écrire à plusieurs mains, d'avoir des points de vue différents pour enrichir votre propos.
Oui, tout à fait. Depuis le tout début, j'ai toujours eu à cœur de couvrir l'ensemble de toutes les facettes des saines habitudes de vie et de la prévention. Donc, à la fois, on parle beaucoup de l'alimentation et de l'activité physique. Mais outre ça, il y a deux autres grandes facettes qui sont extrêmement importantes. La gestion du stress, de l'anxiété, j'inclus dans ça le sommeil, oui. Et la qualité de la vie sociale. Ce que je me suis entouré, en fait, me permet d'aller plus profondément dans certains sujets que je n'aurais peut-être pas été à l'aise à traiter moi-même tout seul, comme par exemple la question de la problématique de la surmédication en vieillissant. Donc, on a un pharmacien qui en parle dans le quatrième livre. Et on a un psychologue qui collabore aussi, parler certains aspects de l'état d'esprit, entre autres des trucs dans le cas des gens qui sont atteints de fibromyalgie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour prendre soin de son état d'esprit? C'est une facette aussi extrêmement importante.
Ben, je pense que l'état d'esprit, en ce moment, c'est un enjeu particulièrement important. Il y a toute la notion d'isolement. Et il y a une statistique dans votre livre qui me parle beaucoup, qui démontre à quel point une vie sociale de qualité est un facteur de prévention. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, puis en fait, c'est un... La vie sociale de qualité est extrêmement importante. Je n'hésite même pas à dire, même en conférence, que c'est probablement la facette la plus importante. Mm. Puis il y a plusieurs raisons d'attacher à ça. C'est que les gens qui ont une vie sociale de très grande qualité, ça les amène habituellement à être plus actifs. Ça les amène à considérer aussi des facettes de la vie au niveau de la prévention, au niveau de la gestion du stress dans lesquelles ils vont être plus efficaces. Il y a bien sûr la grande étude de Harvard qui a beaucoup fait la manchette dans les dernières années. Je crois que ça a été publié en 2017, là, où l'Université de Harvard avait montré que la qualité des vies sociales était tellement importante qu'à l'âge de 50 ans, on serait capable de prédire les gens qui vont bien vieillir en regardant la qualité de la vie sociale. Mais là, il faut bien comprendre une chose, là, c'est que quand on parle de qualité de vie sociale, le nombre d'amis Facebook ne compte pas. Ça prend des vrais amis. Ça prend des gens sur qui on peut compter. Ça prend une amitié qui repose sur de la profondeur, des sentiments. C'est extrêmement important. Fait que, en fait, la question des sentiments est un bon indicateur. Si vous ne parlez pas de vos sentiments avec vos amis, c'est que ce n'est pas une amitié de très grande qualité.
Mais on va continuer à se parler. Vous dites que c'est un facteur prédictif. J'ai justement cet âge-là, j'ai 51 ans. Alors, d'après vous, quelle chance j'ai de devenir centenaire et qu'est-ce que je dois faire là, pour y arriver en santé?
Aujourd'hui, c'est étonnamment, en fait, les chances des gens au cours des prochaines années d'atteindre 100 ans vont augmenter. Et autrement dit, le nombre de centenaires va augmenter. C'est pas juste une question de... de comment ils ont vécu auparavant. C'est plus une question de connaissances qu'on a dans le domaine puis de l'application des saines habitudes de vie. Fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens à l'âge de 50 ans qui vont commencer à prendre connaissance des problèmes de santé qu'ils ont, parce que là, les petits bobos sortent, puis les enfants partent de la maison. Ça fait que tu as plus de temps pour, disons, prendre connaissance des problématiques. Mais je te dirais que d'un, tes chances de te rendre à 100 ans sont probablement très bonnes, puis probablement au-dessus de la moyenne, parce que d'un, ça t'intéresse.
J'apprends tout plein de choses avec vous encore cet après-midi.
Et pour répondre à ta question comme il faut de quoi faire ou de qu'est-ce que tu devrais faire, moi, ce que j'explique aux gens avant tout, normalement, c'est d'essayer de prendre connaissance de l'ensemble des facettes, d'apprendre à mieux se connaître personnellement pour savoir lesquelles des facettes on peut faire les plus gros gains en premier, puis de considérer qu'on va continuellement s'améliorer. Autrement dit, on focus sur une facette en premier qu'on a améliorée de nos habitudes de vie ou des facettes importantes pour la santé. Une fois qu'on l'a améliorée, on passe à la suivante, quitte à y revenir à un moment donné, une fois qu'on aura fait un tour de roue complètement et qu'on sera prêt à peut-être faire une deuxième itération. On devrait considérer que la santé, c'est une façon de voyager et non pas un objectif. On ne va jamais l'atteindre. C'est une façon de voyager, en fait, qui va nous permettre de voyager plus longtemps.
Ces temps-ci, c'est la plus merveilleuse façon de voyager. J'aime bien cette façon-là, itérative et par levier, qui nous amène justement vers une prochaine étape. Et justement, parlant d'étapes, vous parlez dans ce nouveau livre-là de vieillissement primaire et de vieillissement secondaire. Quelle est la différence?
Ah, c'est fort intéressant. En fait, c'est un concept pratiquement nouveau en biologie. C'est important d'en parler, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore au courant. Puis quand je dis beaucoup de gens, là, même au niveau de nos universités, il y a eu un gros changement de paradigme au niveau du vieillissement qui a commencé au début des années 2000, parce qu'on s'est rendu compte que les anciennes théories qu'on avait sur les raisons mêmes du vieillissement biologique tenaient pas la route. Et ça a pris à peu près 10 ans avant qu'on se rende compte qu'il existait des mécanismes qui poussaient l'organisme à vieillir. Donc, ce qu'on appelle maintenant le vieillissement primaire de l'organisme. Pour faire simple, là, on a des processus biologiques passé l'âge adulte qui vont nuire à nos mécanismes de maintenance et de réparation cellulaire et qui vont donc causer le vieillissement. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le vieillissement primaire. C'est relié à la vitesse à laquelle on se développe. Donc, tous les petits organismes vivants qui se développent rapidement vont vieillir très vite dû au vieillissement primaire. Seule une souris a 20 jours de gestation, ça ne vivra pas plus que 3 ans. Donc, dans l'opposé, on a des organismes qui vivent extrêmement longtemps. Je donnais en exemple aussi, je pense que c'est dans le deuxième livre, le requin du Groenland. Il va atteindre la maturité sexuelle à 150 ans.
Late bloomer, comme on dit.
ce que moi j'ai appelé un vieil ado.
Oui.
Et il va vivre au moins 300-350 ans. Donc lui, son vieillissement, son développement est tellement lent qu'il vieillit pratiquement pas, ce qui vit très longtemps. Et pour bien répondre à ta question, le vieillissement secondaire, lui, est caractérisé par tout notre environnement et nos habitudes de vie. Donc, les gens qui fument vieillissent plus vite. C'est du vieillissement secondaire accéléré, dû à la toxicité, en fait, là, du tabagisme.
Bien, il y a un mot que j'ai appris aussi dans votre premier livre, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le connaissait, le mot « télomère ». Et puis, c'est drôle, hein? On dirait que ça sonne comme un vieux prénom, comme Télésphore.
Oui, c'est amusant, ça.
Mais vous, qu'est-ce que c'est un télomère?
Un nom de marionnette, hein?
Télomère et Télésphore vous parlent de vieillissement.
En fait, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler des télomères au cours des dernières années parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir derrière. C'est que les télomères sont l'extrémité de nos chromosomes qui empêchent nos chromosomes de se souder entre eux. C'est un peu... Mais d'un point de vue biologique, c'est exactement ça. Et les télomères ont un rôle à jouer dans la réplication de l'ADN et vont raccourcir avec le temps. Puis ils vont raccourcir plus vite si on a de mauvaises habitudes de vie. Et ils vont devenir de plus en plus courts selon aussi l'impact du vieillissement. Fait qu'il y a des gens qui avaient eu beaucoup d'espoir derrière les télomères en pensant que si on les rallongeait, on pourrait rallonger l'espérance de vie, rallonger la longévité en santé, entre autres basé sur le fait que nos cellules souches, en fait, les cellules qui vont donner lieu à toutes les cellules de notre organisme qui sont capables de régénérer des tissus, maintiennent des télomères plus longs. Et plus ils les maintiennent longtemps, plus ils sont capables de produire de nouvelles cellules longtemps. Le problème dans cette explication-là, en fait, là, c'est que c'est pas complètement vrai. Ce que je viens de vous dire là est vrai, oui, mais l'application n'est pas possible. C'est que les télomères sont comme une espèce d'horloge qui donne une indication de la durée de vie utile des cellules. Mm. Plus les cellules sont maganées, sont usées, sont vieilles, plus les télomères sont courts. Et c'est correct que ce soit ainsi. Parce que quand les télomères deviennent très courts, l'organisme comprend que la cellule est plus bonne, puis elle va la remplacer. Et si tu ne l'en remplaces pas, elle risque de devenir cancéreuse. Fait que finalement, le rallongement des télomères risque d'augmenter, en fait, l'incidence du cancer. Fait que la meilleure façon, finalement, de rallonger nos télomères, c'est de rester en santé, tout simplement, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Même l'état d'esprit a un impact sur la longueur des télomères. Et ce faisant, bon, on va maintenir nos cellules en santé plus longtemps, puis ils vont être utilisables plus longtemps, ce qui fait que les télomères vont rester plus longs.
Okay, les télomères, là, c'est comme le mascara de la santé pour nos cils.
C'est vraiment un indicateur de la durée de vie utile des cellules. C'est comme une horloge. Ce que j'explique aux gens, c'est comme une montre. C'est que si tu recules ta montre, normalement, tu n'as pas plus de temps.
J'ai envie, avant de vous poser la question sur la chanson que vous avez choisie pour nous, que vous nous parliez d'une anecdote qui est dans un de vos livres. Vous parlez d'une championne de course à pied qui a 80 et quelques passés.
Oui, ça, c'est un exemple vraiment fabuleux. C'est une dame... Madame Larkin, en fait, c'est une dame de l'Afrique du Sud qui était une Anglaise à l'origine de l'Angleterre. Ce qui était patent dans son cas, elle, c'est qu'elle a, en fait, à 76 ans, elle avait été diagnostiquée avec de l'ostéoporose.
Mm.
Puis à 82 ans, c'est une professeure de piano qui s'est mise à faire de la course à pied à 82 ans. Et je l'utilise beaucoup en conférence, en fait, pour donner un bon exemple aux gens qu'elle n'avait jamais couru, là. Et elle explique même, en fait, quand tu lis ses témoignages, elle explique que quand elle a commencé à courir, elle n'était même pas capable de se rendre au coin de la rue.
Wow.
Elle courait 3-4 pas, elle venait déjà essoufflée, elle marchait un peu, puis assez motivée à faire de la course à pied parce que son fils était revenu vivre à la maison, chose qui arrive. Et lui, il faisait de la course à pied, puis elle voulait passer du temps avec. C'est quand même, c'est beau aussi comme histoire.
Absolument, histoire intergénérationnelle, c'est ce dont on va parler à l'émission, oui.
Oui, puis après 4 à 5 ans, en fait, au fil des années, elle s'est découvert une passion pour la course à pied, puis elle a fini par faire des demi-marathons en très grande quantité, puis elle avait déjà, il y a quelques années, au-dessus de 500 médailles de gagner.
Wow!
Elle fait des marathons à plus de 80 ans, non? Oui, c'est devenu, c'est extraordinaire, en fait, comme accomplissement.
Merci.
Ça démontre qu'avec beaucoup de volonté, des fois, on peut faire vraiment de grandes choses.
avec beaucoup de volonté et des conseils de professionnels comme ceux que vous avez assemblés dans votre quatrième livre, Vivre jeune 4, ne soyez pas esclave de votre génétique, aux éditions Marcel Broquet. Alors, en terminant, Éric, quelle est la chanson que vous avez choisie? Je vous ai demandé, pour rester dans le thème, une chanson qui vieillit bien.
C'est « La vie en rose en » d'Édith Piaf.
Oui.
C'est une chanson avec laquelle j'ai une connexion particulière parce que c'est la chanson au thème de mon mariage. On s'est marié avec la chanson d'Édith Piaf parce qu'on l'aimait beaucoup. On aime beaucoup son histoire et ça a un petit côté... ça a un petit côté de nous rappeler le bon côté des choses. C'est difficile d'avoir des mauvaises pensées en écoutant cette chanson-là. Je trouve ça fabuleux.
Puis c'est excellent pour la santé, hein, parce que ça nous met dans une belle attitude. Donc, merci beaucoup, Éric, et on écoute « La vie en rose » d'Édith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
La vie en rose, un grand classique de Piaf. Tout comme « Je ne regrette rien » que vous connaissez sûrement. Et parlant de regrets, j'ai envie de vous parler d'un livre qui scrute les regrets des personnes en fin de vie. Le livre s'intitule « The Top 5 Regrets of the Dying » et c'est une compilation qui a été faite par une infirmière australienne en soins palliatifs, Brownie Weir. Donc, Brownie, évidemment, c'est une grande écoute. J'aurais envie de dire que c'est une ange gardien de notre système, comme on le dit tellement des gens en CHSLD en ce moment. Donc, Brownie, elle était à l'écoute des gens qui sont en soins de vie et elle a décidé de faire une compilation des grands regrets de ces personnes-là et de celles qui avaient décidé d'agir sur leurs regrets. Alors, je vous parle de ces cinq grands regrets-là. Les gens lui ont dit « J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je l'entendais et non la vie que les autres voulaient pour moi. » Donc, de faire vraiment des vrais choix pour soi. Regret numéro 2, ne pas m'acharner autant dans le travail. Puis là-dessus, c'est vrai que à moins de faire un travail comme moi et l'équipe qui est derrière le plexiglas, là, et d'être passionné, oh, Jean-Sébastien nous fait des gros muscles, d'être passionné par son travail, c'est vrai que des fois, on se dit pas « j'aurais donc dû travailler plus fort plutôt que d'aller marcher en montagne ou m'amuser avec les enfants. » Regret numéro 3, j'aurais aimé avoir le courage de dire mes sentiments. Et Renée Ouimet nous en a parlé de ce regret-là. Elle nous a dit à quel point c'est important de ressentir nos émotions et d'apprendre à les exprimer et que parfois on avait eu des barrières qui nous empêchaient de les exprimer vraiment. Donc, dites-vous que ça se peut que ce soit un regret plus tard. Regret numéro 4, rester en contact avec mes amis. Et là, je tends la perche à Éric Simard qui nous a aussi parlé de l'importance des liens avec nos amis, à quel point ça nous amenait en bonne santé physique et mentale. Et d'ailleurs, à mon ancien travail, la cafétéria s'appelait Café Rosetto. Et pourquoi Rosetto? C'est en l'honneur d'une petite ville en Italie où il y a beaucoup de centenaires. Et les chercheurs se sont demandé quel était l'effet Rosetto. Et on s'est rendu compte que ces gens-là avaient énormément d'amis, ce qui amenait, faisant en sorte finalement de prolonger leur longévité en bonne santé. Il y a d'ailleurs une petite anecdote comme ça. En ce moment, on a moins l'occasion d'aller prendre notre petit café dans notre endroit préféré, comme je vois beaucoup d'aînés, par exemple, chez Tim Hortons. Et une fois, pas que je voulais vraiment écouter, mais vous savez, des fois, l'oreille est là. Il y a une dame qui a dit « Ben moi, je m'ennuie de mes amis. » Et l'autre lui a dit « Ben pourquoi ils sont pas ici? » Et elle a dit « Je n'en ai plus d'amis. Ils sont tous morts. » Et ça m'a tellement touchée. Mais vous savez ce que la dame a dit? Ben moi, je vais l'être, votre amie. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Comme quoi, peu importe, des amis, on peut toujours en refaire. Il s'agit de provoquer le petit contact dont on parlait tout à l'heure. Le dernier grand regret des personnes en fin de vie, c'est j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux et heureuse. Beaucoup de ces patients de Brownie sont partis en paix. Parce qu'ils n'avaient pas ces regrets-là. Parce qu'ils ont eu le courage de faire à 70, à 80, à 85 ans les changements nécessaires pour faire la vie qu'ils voulaient vraiment vivre. Alors, c'est un petit peu ce qu'Au fil du temps veut faire avec nous, avec vous, réunir des spécialistes qui vont nous aider à apporter ces changements-là pour profiter au maximum du temps qui est devant nous. Merci à nos invités, René Ouimet et Éric Simard. Merci également à toute l'équipe de Canal M, dont Louis Garon et Jean-Sébastien Laliberté, à la régie et à la mise en onde. Si vous avez aimé l'émission Au fil du temps, ben je vous invite à en parler à vos amis, leur suggérer de réécouter l'émission sur canalm.vuesetvoix.com ou encore en format balado-diffusion. Je vous invite également à nous suivre sur la page Facebook de Canal M, à commenter, à ajouter votre grain de sel, bref, à participer. Parlant de participation, la semaine prochaine, on cause d'engagement social et de politique avec des gens qui font bouger les choses pour les aînés et dans leur communauté. Je reçois la députée bloquiste de Shefford, Andréane Larouche, et son conjoint Richard Leclerc, un publicitaire bien connu et très engagé dans la communauté de Sutton. Je peux vous dire que ces deux-là, ils ont compris l'importance de cultiver des amitiés. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine à Au fil du temps.